Philippe de Valois est pleinement favorable à Madame d'Angleterre, mais il va la trahir parce que sa femme, qui est Isabelle, lui a fait la leçon et que cette nuit, elle se refusera à lui, après cris et tempête, s'il agit autrement qu'elle en a décidé. Et le gaillard à grand nez se trouble, hésite, bafouille. Louis de Bourbon est sans courage. On ne l'envoie plus dans les batailles parce qu'il prend la fuite. Il n'a aucun lien particulier avec la reine Isabelle. Le roi est faible, mais capable d'entêtement, comme cette fois dont on se souvient où il refusa tout un mois à son oncle Charles de Valois la commission de lieutenant royal en Aquitaine. Il est plutôt mal disposé à l'égard de sa sœur, parce que les ridicules lettres d'Édouard, à force de répétition, ont fini par agir sur lui, et puis surtout parce que Blanche est morte et qu'il repense au rôle joué par Isabelle il y a 12 ans dans la découverte du scandale. Sans elle, il n'aurait jamais su. Et même, sachant, il aurait sans elle pardonné pour garder Blanche. Cela valait-il tant d'horreurs, d'infamies remuées, de jours de souffrance? Et pour finir, ce trépas. Le clan des ennemis d'Isabelle ne comprend que 2 personnes. Jeanne la Boiteuse et Mao d'Artois, mais solidement alliés par une commune haine. Si bien que Robert d'Artois, l'homme le plus puissant après le roi, et même en beaucoup d'aspects plus importants que le souverain, lui dont l'avis prévaut toujours, qui décide de toutes choses d'administration, qui dicte les ordres aux gouverneurs, baillis et sénéchaux, Robert est seul, soudain, à soutenir la cause de sa cousine. Ainsi en va-t-il de l'influence dans les cours. C'est une étrange et fluctuante addition d'états d'âme, et les situations se transforment insensiblement avec la marge des événements et la somme des intérêts en jeu. Et les grâces portent en elles le germe des disgrâces. Non qu'aucune disgrâce menace Robert, mais Isabelle vraiment est menacée. Elle que voici quelques mots en plaignait, en protégeait, en admirait, à qui l'on donnait raison en tout, dont on applaudissait l'amour comme une belle revanche, voilà qu'elle n'a plus au conseil du roi qu'un seul partisan. Or, l'obliger à rentrer en Angleterre, c'est tout exactement lui poser le coup sur le billot de la tour de Londres, et cela, chacun le sait bien. Mais soudain, on ne l'aime plus. Elle a trop triomphé. Personne n'est plus désireux de se compromettre pour elle, sinon Robert, mais parce que c'est pour lui une façon de lutter contre Mao. Or, voici que celle-ci s'éploie à son tour et lance son attaque depuis longtemps préparée.
« Sire, mon cher fils, je sais l'amour que vous portez à votre sœur. Et qui vous honore, dit-elle. Mais il faut bien regarder en face qu'Isabelle est une mauvaise femme, dont tous nous pâtissons ou avons pâti. Voyez l'exemple qu'elle donne à votre cour, depuis qu'elle s'y trouve. Et songez que c'est la même femme qui fit pleuvoir naguère mensonge sur mes filles et sur la sœur de Jeanne, ici présente. Quand je disais alors à votre père, Dieu en garde l'âme, qu'il se laissait abuser par sa fille, n'avais-je pas raison? Elle nous a tous souillés à plaisir, par de mauvaises pensées qu'elle voyait dans le cœur des autres, et qui ne sont qu'en elle, comme elle le prouve assez. Blanche, qui était pure, et qui vous a aimé jusqu'à ses derniers jours, comme vous le savez, Blanche vient d'en mourir cette semaine. Elle était innocente! Mes filles étaient innocentes!
Le gros doigt de Mao, un index dur comme un bâton, prend le ciel à témoin. Et pour faire plaisir à son allié du moment, elle ajoute, se tournant vers Jeanne la Boiteuse,
« Ta sœur était sûrement innocente, ma pauvre Jeanne! Et tous, nous avons subi le malheur à cause des calomnies d'Isabelle, et ma poitrine de mère en a saigné !»
Si elle continue de la sorte, elle va faire pleurer l'assemblée. Mais Robert lui lance
« Innocente ! Votre Blanche ! Ah, je veux bien, ma tante, mais ce n'est tout de même point le Saint-Esprit qui l'a engrossée en prison !»
Le roi Charles le Bel a une grimace nerveuse. Robert vraiment n'avait pas besoin de rappeler cela.
« Mais c'est le désespoir qui a poussé là ma fillette !»
crie Mao, toute rebiffée.
« Qu'avait-elle à perdre, cette colombe souillée de calomnie, mise en forteresse et à demi-folle? Un tel traitement, je voudrais bien savoir qui pourrait résister !»«
Je fus en prison, moi aussi, ma tante. Autant pour vous plaire, votre gendre, Philippe le Long, m'y plaça. Je n'ai point engrossé pour autant la femme du geôlier, ni par désespoir, ni ne me suis servi du porte-clés pour épouse, comme il paraît que cela se fait dans notre famille anglaise. »
Ah, le connétable commence à reprendre de l'intérêt au débat.
« Et qui vous dit d'ailleurs, mon neveu, qui vous plaisait si fort à salir la mémoire d'une morte ? qu'elle n'a pas été prise de force, ma Blanche. On a bien étranglé sa cousine dans la même prison,
dit Mao en regardant Robert dans les yeux.
On peut avoir violé l'autre. Non, sire, mon fils,
poursuit-elle en revenant au roi.
Puisque vous m'avez appelé en votre conseil,
nul ne vous a appelé, dit Robert. Vous êtes bienvenu de vous-même.
Mais on ne coupe pas aisément la parole à la vieille géante.
Alors ce conseil, je vous le donne, et d'un cœur de mère, que je n'ai jamais cessé d'avoir pour vous en dépit de tout ce qui eût pu m'éloigner. Je vous le dis, sire Charles, chassez votre sœur de France, car chaque fois qu'elle y est revenue, la couronne a connu un malheur. L'année que vous fûtes fait chevalier avec vos frères et mon neveu Robert lui-même, qui s'en doit souvenir, le feu prit à Maubuisson pendant le séjour d'Isabelle, et peu s'en fallut que nous ne fussions tous grillés. L'année suivante, elle nous amena ce scandale qui nous a couverts de boue et d'infamie, et qu'une bonne fille du roi, une bonne sœur de ses frères, même s'il y avait eu quelque ombre de vérité, se serait due de taire, au lieu d'aller clabauder partout avec l'aide de qui je sais, hein. Et encore du temps de votre frère Philippe, quand elle vint à Amiens, pour qu'Édouard rendit l'hommage. Qu'est-il survenu? Les Pastoureaux ont ravagé le royaume. Et je tremble à présent depuis qu'elle est de retour, car vous attendez un enfant qu'on espère mal, puisqu'il vous faut donner un roi à la France. Alors, je vous le dis bien, sire mon fils, tenez cette porteuse de malheur distante du ventre de votre épouse.
Ah, elle a bien ajusté son carreau d'arbalète.